19h22 sur France Inter, le téléphone sonne, a lieu dehors, Nicolas Demorand. Vous êtes place de la République à Paris.
Et oui, mon cher Sébastien, merci. Le prochain journal sur Inter à 20h avec Laurence Thomas. Et retour donc en direct, en public, avec un petit froid, place de la République à Paris.
France Inter. Le 18-20.
Et merci à vous d'être resté pour nous suivre ici, place de la République. France Inter et l'association Les Enfants du Canal vous proposent, vous le savez, cette journée spéciale consacrée à l'aide au logement, à l'hébergement, à l'insertion sociale des sans-abri. Pour la 5e année consécutive, on en disait un mot tout à l'heure, les Enfants du Canal vont distribuer des milliers de postes de radio aux sans-abri, des radios qui permettent de rompre un peu l'isolement chez ces personnes qui sont parfois dans une très grande solitude. Toutes vos questions jusqu'à 20h dans ce téléphone sonne spécial.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et comme d'habitude, vous pouvez nous joindre via Twitter avec le mot-clé Telson, par courrier électronique à l'adresse franceinter.fr et au standard d'Inter 01 45 24 7000, standard où nous attend Marie-Jo des Ardennes. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, certains de vos intervenants ont déjà abordé ce que je voulais dire et répondu, mais on m'a dit que je le redise
allez-y,
quand même.
Allez-y.
Alors, et bien sûr que les pouvoirs publics ont un rôle essentiel dans ce problème, mais il y a aussi les particuliers qui louent des logements avec des loyers vraiment disproportionnés et ça se... Le peu de cas que ça pourrait solutionner, ce serait déjà ça. Il y a des personnes qui travaillent et qui n'ont pas les moyens de se payer un loyer. C'est inadmissible. J'avais entendu un jour une de vos collègues faire une enquête micro cachée sur les logements. C'était pour les étudiants, mais c'est la même chose. Et le propriétaire, elle disait au propriétaire, mais il y a des lois, vous dépassez les tarifs. Et il en avait rien à cirer, quoi. De toute façon, voilà. Mais c'était exorbitant. Alors, il y avait ça. Puis, je voulais faire une petite remarque. Alors, c'est un raisonnement un peu simpliste, mais je vous la livre quand même. Tout à l'heure, chez Charline, quelqu'un a dit qu'il y avait très peu de personnes qui abusaient du système. Il y en a un peu, mais qu'il y en avait très peu. Ben, moi, je me dis que ces personnes, on devrait les remercier, celles qui profitent du système. Étant donné qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde, eh ben, au moins, faut le laisser à ceux qui veulent travailler.
Merci Marie-Jo pour ces deux questions. La première consacrée au logement, la seconde qui est une analyse que je vais soumettre aux invités du téléphone sonne. Bonsoir Christophe Louis.
Bonsoir.
Directeur de l'association Les Enfants du Canal. Merci d'être au micro de France Inter. À vos côtés Monique Mette, bonsoir.
Bonsoir.
Porte-parole du collectif SDF Alsace.
Absolument.
Et merci à vous aussi d'être là. On retrouve nos deux premiers invités, Christophe Robert, directeur général de la Fondation ABP Pierre, que je remercie également d'être là, et Frédéric Spinwen, qui nous apportera son regard européen tout au long de ce téléphone sonne. Alors, qui veut répondre à la question de Marie-Jo sur le logement, son prix, pour commencer? Christophe Robert, vous en disiez un mot tout à l'heure. Vous voulez rebondir à nouveau?
Oui, je pense que c'est très important. C'est-à-dire qu'on là, on parle des sans-abri, on parle des sans-domicile fixe, mais il faut voir que tout est lié. On a eu une augmentation des loyers de 50% en 10 ans dans les années 2000. On a des charges eau, gaz, électricité qui ont flambé. Et pendant ce temps-là, les salaires n'ont pas suivi cette évolution-là. Donc il y a une déconnexion entre les ressources, y compris de ceux qui ont un boulot, et le coût du logement, en particulier dans les grandes villes. Il y a des territoires où ça a stagné, ou voire même ça baisse. Mais donc cette déconnexion, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on manque aussi de logements dans les grandes villes, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie de logements dans les grandes villes. Eh bien, cette hausse des coûts du logement et cette pénurie fait que les populations modestes, par exemple, vont se rabattre vers des logements de moins bonne qualité, qui vont être accessibles à leurs ressources. Et puis ceux qui sont encore en dessous vont se rabattre vers des logements pourris, des logements insalubres, et puis ceux qui sont encore en dessous vers des caves, vers des parkings. Et puis ça veut dire que ces logements qui servaient d'amortisseurs de crise pour les personnes en grande précarité, eh ben il n'y en a plus. Donc il y a bien un lien, votre auditrice a raison, entre le coût du logement dans son ensemble et la grande exclusion de l'autre. Donc il faut une intervention forte en termes de production de logements et en termes de régulation des prix, des loyers et des charges.
Monique Maître, sur le logement ?
Sur le logement, mais c'est un monde extraordinaire. Les seuls boulots qu'on nous propose, ce sont des contrats aidés, des emplois précaires avec de très bas salaires. Les associations doivent être un peu schizophréniques parce que ce sont des grandes consommatrices de ces contrats et en même temps, elles se disent dans la lutte contre la pauvreté. La pauvreté, elle est fabriquée en France, donc on ne peut pas louer. Avec moins de 1500 euros qui rentrent dans un foyer, on n'a aucune possibilité de louer. La deuxième chose, c'est quoi un logement social ? La France a ça d'extraordinaire, c'est qu'avant on avait le HLM, on savait que c'était pas cher, on savait qu'on avait accès à un HLM. Maintenant, le logement social, c'est un sac fourre-tout dans lequel il y a plein de trucs avec plein de prix. Voilà.
On est en ligne avec Pouya, qui nous appelle aussi sur la question du logement. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, je vous appelle de Paris. Je vais continuer dans la lignée de ce qui vient d'être dit, mais je vais apporter des exemples concrets. Moi, comme je dis à votre collègue, je suis entré dans mon logement. C'est un chambre d'étudiants de 12 mètres carrés à Paris, classique, je pense que tout le monde connaît, les Parisiens. Et depuis le temps que j'ai fini mes études, je n'ai pas pu en sortir. Pourquoi ? Parce que si on vit à Paris, par exemple, mais dans les autres grandes villes, ça doit être pareil. On veut louer un logement. Le minimum, le plus petit, c'est des petites chambres qui ont un loyer de 510 euros par mois. D'accord ? Et après, le propriétaire, il vous demande déjà un CDI. Alors, vous savez que le CDI, c'est de moins en moins rare. En plus de ça, un CDI qui gagne 3 fois plus le montant de loyer, ça veut dire que plus de 1500 euros, alors que le SMIC, il est à 1200, 1300 euros. Et après, il vous demande des fois un, sinon deux garanties. Ça veut dire qu'il y aura des garants, ben, je sais pas, votre sœur, votre mère, votre frère, quelqu'un qui se porte garant. Et dans ce genre de conditions, dans les situations de marché de travail actuel, vous imaginez que c'est un serpent qui se mord la queue. On n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à trouver, et dans les grandes villes, pour un seul logement proposé, il y a entre 200 et 400 demandes déjà pour les logements sociaux et pour les logements privés. Il y a une longue file d'attente et les propriétaires, je ne peux pas les accabler tellement. Bah, ils ont un bien, ils veulent le louer et voilà, ils sont en position de force et des fois ils en profitent, des fois non, mais bah, ils sont en position de force. Et les travailleurs, de plus en plus, ils sont en difficulté pour se loger. C'est le minimum, la base même de la vie sociale. Et après, petit à petit, vous voyez le résultat, les gens se trouvent dans la rue.
Bien reçu, Pouya. Merci pour votre intervention. Comment prendre cette question du logement ? Quelle prise y a-t-il pour une politique publique volontariste, Christophe Robert ?
Il y a beaucoup de choses. Votre auditeur, il parle effectivement des garanties qui sont demandées, souvent énormes, à des personnes qui n'ont pas toujours la capacité de les apporter. Donc on voit bien qu'on c'est une sorte de privatisation de la réponse. Ceux qui ont la chance d'avoir de la solidarité familiale vont pouvoir apporter les garanties nécessaires. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir cette solidarité familiale ne pourront pas. Alors il y a des outils. Par exemple, vient de se développer un outil qui s'appelle Visal, qui consiste à compenser l'absence de garant, l'absence de caution que pourrait apporter quelqu'un. Mais on est encore un dispositif qui touche, par exemple, les moins de 30 ans ou une partie de la population. Il faut la généraliser. On avait proposé une garantie universelle des loyers. Elle n'a pas été adoptée. Elle a été adoptée partiellement. Il faut compenser cela. Mais globalement, si on parle des fragiles jusqu'aux plus pauvres, il faut faire tout azimut des politiques dans tous les sens. Il faut prévenir les expulsions locatives. Il faut développer la capacité de tendre la main à ceux qui sont en souffrance. Il faut construire du logement vraiment social, mais vraiment social. Il faut mobiliser du parc privé à vocation sociale. On vient de rendre un rapport à la ministre qui permettrait de jouer gagnant-gagnant avec les propriétaires en leur disant « Voilà, vous allez mettre votre logement à disposition de ménages fragiles à des niveaux de loyer en dessous du marché, mais en contrepartie, justement, vous avez les garanties contre les impayés, pour les réparations. Vous allez pouvoir sécuriser votre location. » On peut le faire, il faut faire tout ça à la fois, mais à une échelle beaucoup plus importante que ce que l'on fait aujourd'hui.
Monique Mette. Ouais,
j'admire la Fondation Abbé Pierre qui, depuis des années, nous sort chaque fois un rapport un petit peu plus alarmiste, avec des solutions, c'est quand même pas rien, dont tout le monde se fout. Donc moi, ma solution, c'est de changer toutes les politiques, parce qu'il y en a ras-le-bol, ils se valent tous, c'est-à-dire pas grand-chose. Et la deuxième solution, c'est réquisition.
Réquisition, c'est le seul moyen, d'après vous, de régler une partie de cette question du logement.
Écoutez, si les politiques ne sont pas capables de mettre en place cette loi, c'est quand même pas parce que des dispositifs, des lois, on les accumule. Moi, ça fait 15 ans que j'entends parler de dispositifs et de lois, et la situation est gravissime. Il y a quand même des morts de la rue en France. Alors, le collectif Les Morts de la Rue nous annonce un chiffre dans les 500, mais l'enquête épidémiologique qu'ils font nous indique qu'il faut multiplier ce chiffre par 6. C'est-à-dire qu'on a entre 2300 et 2500 morts de la rue ou dans la rue. Bah, c'est pas une fatalité, ça. Hein, c'est une hécatombe. C'est une hécatombe dans un pays qui se dirige. Mmh. Donc, oui, réquisition, la loi existe, on le fait et c'est tout.
Frédéric Spinwen, sur la question du logement que nos deux premiers auditeurs posaient.
Oui, la pénurie de logements, c'est un problème partout en Europe et j'ai rien à ajouter sur les actions que Christophe Robert a mentionnées. Peut-être dire, bien sûr, il faut investir dans la production, il faut avoir plus de logements sociaux, mais il faut aussi être plus innovateur, plus courageux dans les solutions. Il n'a pas mentionné, par exemple, la vacance. La vacance dans les bureaux, les bâtiments de bureaux, par exemple. Il y a des millions et des millions de mètres carrés de bureaux qui sont vides pour l'instant. On peut être créatif et essayer de les rendre disponibles pour le logement, même temporairement.
Christophe Louis.
Oui, et tout le monde doit jouer le jeu. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a un service d'accompagnement dans le logement de personnes qui sont prioritaires d'Allo. Et on se rend compte, on se heurte à quelque chose qui sont les bailleurs sociaux actuellement. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux ne veulent pas prendre le risque d'accueillir les personnes aux minima sociaux. Régulièrement, ils sont recalés systématiquement. Leur dossier n'est pas accepté parce qu'ils ne présentent pas assez de garanties. Parce que quand on a un RSA à l'heure actuelle, eh bien, on est quelqu'un qui met en danger un équilibre financier dans le logement social. Et ça, c'est inentendable de notre part.
On a une question par courrier électronique d'Elisabeth qui vous demande la chose suivante. Pourquoi parmi les SDF, des enfants ou des bébés sont apparus dans la rue accompagnés de leurs parents ? Je croyais, nous dit Elisabeth, que la loi française et la protection de l'enfance interdisaient cette situation en accueillant au moins les mères et leurs enfants de moins de 3 ans dans des centres d'hébergement d'urgence. Je suis atterré qu'une situation pareille puisse exister dans un pays occidental, des droits de l'homme. Alors, sur le pourquoi, déjà, qui peut répondre à Elisabeth ? Christophe Louis ?
Oui, on a beaucoup de familles qui sont arrivées dernièrement, enfin, depuis quelques années, des familles qui sont communautaires européens. Hein. Ce ne sont pas des familles dites françaises qui sont à la rue, hein, mais des familles communautaires européens ou parfois d'immigration. Et c'est vrai qu'on n'a pas su prendre cette évolution-là. On avait un dispositif d'hébergement qui était calé sur les personnes isolées, sur les personnes seules, etc., quelques couples. Et puis d'un seul coup, on a vu, et on le voit très bien dans les courbes des chiffres du SAMU social, hein, dans les enquêtes qu'ils ont, dans l'observatoire, eh bien on voit très bien l'arrivée massive de familles, familles monoparentales ou familles qui viennent, etc. Et on n'a pas la solution pour les héberger, mais on n'a pas la solution pour les héberger parce qu'on n'a pas réfléchi comment on pouvait accueillir des communautaires européens, comment on pouvait accueillir des personnes issues de la migration, même si on devait attendre une régularisation, etc. Mais même dans la période d'attente de régularisation, on n'a pas adapté nos dispositifs à cet accueil-là. Et c'est vraiment un problème actuellement. Et de plus en plus, on rencontre. Ce qui est dramatique derrière, c'est qu'on est en train de mettre des gens à la rue. On est en train d'élever des gamins qui sont élevés avec une société qui les rejette. Et on les met après dans des hôtels de 10 mètres carrés à 4. Et le gamin qui va vivre toute son adolescence pendant 4-5 ans, la seule image qu'il aura de la France, parce qu'il restera en France, il n'y a pas de problème là-dessus, il est au communautaire européen. Et la seule image de la France qu'on va lui donner, c'est, voilà, on t'a accueilli avec ta famille dans 10 mètres carrés, eh bien, comment voulez-vous que ce jeune-là, un jour, il devienne comme tout citoyen français ?
Monique Mette, sur la question des enfants, des familles.
Nous l'avons dénoncé lors de l'inauguration du magnifique marché de Noël à Strasbourg. Nous avons une centaine de gamins à la rue à Strasbourg. Et en même temps, on nous dit, oui, mais on a 1400 nuitées d'hôtel. Hein, 1400 nuitées d'hôtel. Et chaque année, les nuitées d'hôtel sont là. Malgré ce fameux plan de résorption des nuitées d'hôtel, ils ne peuvent pas le résorber puisque les gens sont là et les gens arrivent encore. On a encore des gens qui viennent. Donc, beaucoup d'argent depuis des années dans les nuitées d'hôtel et rien. Voilà.
Frédéric Spinouen, sur les enfants et les familles dans la rue.
Oui. Je dois dire, c'est depuis 15 ans que je suis directeur de la FEANSA et je visite régulièrement Paris. Et je dois dire que la situation actuelle est la plus grave que j'ai vue depuis 15 ans. Et si on compare avec les pays voisins, par exemple la Belgique ou les Pays-Bas, l'Allemagne, avoir des enfants dans la rue, on ne le voit pas. Je ne peux pas comprendre pourquoi c'est difficile, même s'il s'agit d'un hébergement d'urgence, d'avoir un hébergement d'urgence pour ces familles avec enfants. Et sur l'Europe de l'Est, hein, si je peux dire quelque chose, bien sûr, c'est un problème. C'est un problème dans beaucoup de pays. Les citoyens européens qui se retrouvent à la rue dans d'autres pays de l'Union européenne. Pourquoi pas demander aux politiques français de les mettre sur l'ordre du jour, sur l'agenda de l'Union européenne. C'est leur responsabilité de trouver une solution pour cette problématique.
Une question ici, place de la République, avec vous, Michael Thébault.
Oui, Nicolas, qui a une question directe à nos invités.
Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir. Antoine.
Ah pardon, oui, c'est moi. Nicolas, c'était moi. Oui, excusez-moi. Ça, bonsoir Antoine.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Je suis éducateur ici à Paris et je travaille avec des enfants qui sont placés en famille d'accueil, c'est-à-dire séparés très jeunes. Et la question sur laquelle, enfin le sujet, j'aimerais bien un petit peu avoir votre avis dessus, c'est que je sais qu'énormément de personnes qui vivent à la rue sont issues de services tels que celui dans lequel je travaille et ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire la DAS, quoi, ce qu'on appelait la DAS avant. Et qui a la fin des prises en charge, autour de 18-21 ans maximum, se fait dans une grande rupture, ce qui provoque beaucoup de souffrance dans les services et évidemment chez les jeunes. Et sent qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Et c'est des fins très violentes. Et on sait que les chiffres font assez peur, ce qui nous questionne beaucoup sur notre travail aussi au quotidien. Et voilà, savoir un petit peu ce que vous en pensez.
Merci Antoine pour cette question en direct, donc place de la République. Christophe Robert.
Oui, effectivement, ce que vous dites là, c'est vrai pour les sorties de l'aide sociale à l'enfance, c'est vrai pour d'autres ruptures. En fait, on sait qu'il y a des moments où il y a des basculements. Et si on ne tend pas la main, si on ne se préoccupe pas de savoir où vont se retrouver les gens, on le disait tout à l'heure, parce qu'ils sortent de prison, parce qu'ils sortent de la prise en charge de l'aide sociale à l'enfance, c'est ce moment clé où il faut apporter la réponse pour assurer une continuité. Je reviens sur les enfants, si vous permettez un instant. Quand même, ce chiffre de 50% d'augmentation des sans-domicile fixe entre 2001 et 2012, ça devrait tous nous effrayer. C'est une statistique de l'INSEE, hein. On sait que c'est plus que ça, encore, quantitativement. Mais parmi ces chiffres qui pointent cette augmentation de 50%, il y a beaucoup d'enfants. Chacun d'entre nous qui travaille sur la question ou qui essaye d'apporter des réponses depuis longtemps sait qu'il y a 10 ans, c'était inconcevable d'avoir une famille à la rue. Nous, il y a des gens qui frappent à la porte avec un enfant qui vient de naître il y a 5 jours. Et on leur a donné un bon d'hôtel pour 5 jours et après, débrouillez-vous. Comme si on se renvoyait chacun à la responsabilité en disant « on verra bien ». Et c'est là où l'exemple dont on parlait en première partie d'émission de la Finlande est fondamental. Il faut se dire que personne ne doit vivre à la rue. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on mettra tous les moyens nécessaires, qu'on organisera en amont la prévention pour éviter que certains basculent, qu'on devra constater que le logement n'est pas suffisamment nombreux ni adapté aux ressources de ces ménages et qu'on développera des outils de protection vraiment fiables. Mais c'est la seule condition. Encore une fois, c'est éminemment politique. Veut-on le faire ? Veut-on faire comme la Finlande ? Veut-on se donner un objectif et se dire « Allez, on commence dès maintenant et dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, on aura réglé le problème. On peut le régler. »
Christophe Louis, sur la question d'Antoine, le moment 18-21 ans.
Oui, eh ben, c'est clair. C'est en France, on n'a pas le droit au recommencement. C'est-à-dire que ces jeunes-là, ils ont été en institution pendant des années. Et à un moment donné, à 18 ans, c'est la majorité. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est quitter cette institution. Sauf que quitter cette institution, c'est leur dire « vous n'avez plus rien ». Alors que ce jeune-là, après, il aura quitté l'institution, comme dans une famille, hein, je veux dire, on fait ses ruptures. Et dans 6 mois, il va revenir, il ira frapper à la porte et là, on lui dira, il n'y aura rien. Alors que si on avait le droit de recommencement, si on permettait à des jeunes de dire, va, vive ta vie, on t'a accompagné, mais on continuera à t'accompagner. Voilà, là, c'est des engagements politiques. Là, c'est du concret. Mais on l'a dans tous les dispositifs. On l'a quand on met une personne à la rue qui sort d'hébergement et qu'on lui dit, t'es blacklisté, on veut plus de toi. On l'a sur des gens qui sont en prison, qui ont été accompagnés par des travailleurs sociaux, etc. Et là, on leur dit, eh bien, fin de prise en charge. On ne s'occupe plus de toi. Et à chaque fois, c'est comme ça, c'est comme ça. En France, on n'a pas le droit de recommencement.
Yannick, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons, vous nous appelez de Lausanne.
Oui, j'appelle de Lausanne, mais n'ayez pas de conclusion hâtive. Il y a du social en Suisse, je vous garantis.
Alors, on n'en fait pas.
Je voulais simplement... j'ai été travailleur social et j'ai travaillé longtemps mission SDF à Paris, avec Médecins du Monde, et c'est toujours les mêmes questions. L'autre question, c'est que on pense que les personnes ne sont pas autonomes, elles sont très autonomes quand on est dans la rue. On développe une sacrée autonomie. Et quand j'ai travaillé à Lyon, toujours en travailleur social, on avait créé ce qu'on appelle un hôtel social, c'est-à-dire un espace qui privilégie la mixité, qui garde l'aspect privé du logement, et puis qui mettent en même temps une mutualisation des services tels que des services sociaux, une infirmière, des services communs de tous les jours. Je pense qu'il y a une autre question qui se cache derrière ça, c'est celle des coûts évités. On ne veut pas investir en France, on ne veut pas regarder à long terme les choses. Si on donne la possibilité aux gens de se prendre en main avec un petit coup de pouce au départ, ça évitera d'arroser les hôtels plus ou moins miteux avec des centaines de milliers de francs chaque année, si c'est pas beaucoup plus. Donc voilà, c'est vraiment de réfléchir sur la capacité des gens à se prendre en main et de les accompagner dans l'autogestion. Et je pense que à partir du moment où on décide d'investir sur la durée, vraiment, et donc c'est effectivement très politique, comme le disait un de vos interlocuteurs, peut-être qu'on a un petit bout de solution.
Merci Yannick pour cette intervention. Qui souhaite réagir, Monique Mette?
Ah ben bravo Yannick, super. Vraiment, Lausanne, c'est une chouette ville, je vais venir. Hein. Donc voilà, je suis adoptable. Hein. Je suis parfaitement d'accord, entièrement d'accord sur l'autonomie des personnes sans abri. On veut absolument nous montrer comme des bons à rien, des feignants ou des gens cassés par la vie. Nous sommes largement autonomes. Nous avons eu soit une vie avant, soit nous sommes jeunes, justement, et donc avec l'envie de mordre la vie. Comme tout le monde. Donc, l'imagination sur les projets en France, elle est à zéro, hein, niveau zéro. Et lorsque des projets un petit peu différents de l'existant sont proposés, ils ne voient pas le jour. Ou ils sont captés, récupérés par les gros requins du social et de l'humanitaire qui vont en faire de la merde puisqu'ils ne savent faire que ça. On tourne en rond en France. Voilà ce que j'en pense.
Christophe Robert.
Oui, sur effectivement la bonne réponse ou la mauvaise réponse. Effectivement, Monique le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que parce que à certains moments on se dit « Ah mais non, on peut pas les laisser à la rue », on développe par exemple la réponse via les hôtels sociaux. Les hôtels sociaux qui sont coûteux, 40 000 nuitées de l'État chaque année. Donc on est dans une logique d'intervention qui n'est pas satisfaisante pour les gens et pour les finances publiques. Un exemple, nous on développe, mais là c'est grâce aussi à la générosité des donateurs qui financent la Fondation Abbé Pierre pour agir concrètement, des pensions de famille pour des personnes qui ne souhaitent pas peut-être être dans un logement autonome tout de suite. Mais elles sont quand même dans un logement autonome parce qu'elles vont avoir leur propre chambre. On leur dit pas au bout de 6 mois vous devez partir, au bout de 2 ans vous devez partir. Ils ont le droit de rester dans cette pension de famille. Mais il y a quand même des espaces collectifs. Et c'est, encore une fois, je m'excuse, mais l'exemple de la Finlande c'est ça. On n'a pas demandé aux gens de s'adapter à des boîtes ou à des solutions bricolées à la dernière minute, on essaye de comprendre où en sont les gens, comment on peut adapter nos réponses. Et ces pensions de famille, ces maisons relais, d'ailleurs l'État essaye de les développer, mais il faudrait les démultiplier, de la même manière qu'il faut développer du logement vraiment social, vraiment bas coût, avec des aides au logement qui permettent de compenser quand on n'a pas les ressources. Donc ça, on sait que ce sont des réponses structurantes, structurelles, et qui permettent de faire des économies à long terme, comme le disait Yannick.
Sur ces hôtels sociaux et autres dispositifs du même type, Frédéric Spinwen.
Oui, mais ce qui vient d'être dit, c'est vraiment le nœud de l'approche logement d'abord. C'est-à-dire utiliser l'accès à un logement permanent comme levier d'intégration plutôt comme un cadeau à la fin d'un processus d'intégration. Absolument. Il ne faut pas préparer les gens à se loger. ils peuvent être logés immédiatement. Il faut juste les accompagner sur les difficultés qu'ils ont. Mais le logement peut être un levier, bien sûr, et pas un cadeau à la fin d'un processus d'insertion.
Christophe Louis, puis une question ici, oui. Place de la République.
Alors, il faudrait qu'on arrête de dire hôtels sociaux. Parce que c'est un scandale, les hôtels sociaux. C'est des ratières, c'est des choses où on vit avec des puces de lit, etc. C'est des marchands de sommeil qui profitent de ça. C'est des groupes hôteliers tels que Accor qui facturent des chambres pour une famille qui va y aller tranquillement, 39 euros comme vous et moi, et qui va facturer, parce que ce sont des personnes qui sont à la rue, 20 euros par personne et qui va mettre 3 personnes dedans. Faites le résultat, 39 euros, 60 euros, la différence elle est là. Et quand on parle de mettre des dispositifs, maisons de relais, pensions de famille, etc., c'est là qu'on va chercher l'argent. C'est qu'on arrête que d'autres spéculent sur la pauvreté.
Michaël Thébault et Place de la République.
Oui, avec Stéphanie... Ah, on ne m'entend plus.
Si, on vous entend parfaitement.
Avec Stéphanie de Lille.
Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir, je voudrais que quelqu'un nous réexplique ce qui a été fait en Finlande, puisque vous en avez parlé, s'il vous plaît. Merci.
Merci, alors c'était dans la première partie de l'émission, mais je vais donner la parole aux deux invités qui nous accompagnaient au moment où nous nous sommes penchés sur le cas finlandais. Frédéric Spinwen, en quelques mots, comment décrire la philosophie et la politique finlandaise ?
Oui, en quelques mots, c'est difficile.
C'est difficile, quelques phrases, allez-y.
Je vais essayer quand même. Il y a 20 ans, le gouvernement finlandais s'est mis d'accord de mettre fin au sans-abrisme. Et l'approche qu'ils utilisent, c'est ce qu'on appelle l'approche logement d'abord. C'est-à-dire, on donne à chaque personne qui tombe dans le sans-abrisme un logement pérenne, immédiatement, et on offre un accompagnement souhaité par la personne concernée. Et c'est comme ça qu'ils ont fonctionné. Ils ont réduit de, je pense, 25 000 personnes à 7 000 personnes le nombre de personnes qui sont sans abri. Ils ont presque entièrement éradiqué le sans-abrisme de long terme. Mmh. C'est ça qu'ils ont fait en Finlande en quelques phrases.
Avec, j'ai l'impression aussi, à vous entendre tous les deux, je pose la question à Christophe Robert, une inversion des facteurs. Ce n'est pas aux sans-abri de se plier, de rentrer dans les cases déterminées par l'administration. C'est l'administration qui, elle, s'adapte et fait du sur-mesure pour chacun. C'est bien cela ?
Absolument. Et avec une grande ambition. Et avec des moyens. Avec de la continuité de l'action. C'est-à-dire qu'on ne change pas tous les 2 ans, on ne change pas tous les 5 ans. On en fait un objectif fondamental parce que ce n'est pas possible de laisser des gens vivre à la rue ou mourir à la rue, comme le disait Monique tout à l'heure. Et on en fait un objectif. Il y a un autre point qui est très important. C'est qu'en fait, il y a des situations de sans-abri. Comme il y a aujourd'hui, dit l'INSEE, 140 000... apparemment sans domicile fixe. Mais il y a des risques que d'autres basculent. Et donc, un des éléments aussi très forts de cette politique du logement d'abord, c'est de dire, par exemple, en France, on a vu augmenter les expulsions de 22% l'année dernière. On n'a pas su enrayer ce robinet qui crée de l'exclusion par le logement. Mais regardez, nous, on soutient des actions où, et avec des bailleurs sociaux, par exemple, où une personne qui va être menacée d'expulsion... Eh bien, temporairement, le temps qu'elle se refasse, ou le temps qu'on trouve une solution alternative, on la laisse dans ce logement. On la laisse dans ce logement, c'est une association qui prend le bail, et quand la personne, la famille, a pu reprendre pied, a pu bénéficier des aides, par exemple, qu'il ne connaissait pas, et qu'on a pu l'aider à ouvrir ces aides qui viennent du département ou de la commune, etc., eh bien, on lui redonne son bail, on lui redonne cette possibilité durablement. Donc, il faut avoir à la fois une action immédiate pour les personnes qui sont dans la galère, qui sont dans la rue, mais il faut fermer les robinets, il faut arrêter ces éléments de rupture, et ça aussi, on a les moyens de le faire. Et grosso modo, cette politique finlandaise, c'est plein de choses à la fois, c'est ce qu'on est en train de dire. Ces choses-là, nous, on en fait ici en France, mais on ne les fait pas au niveau du problème qui est posé aujourd'hui dans notre pays. Donc c'est une question d'ambition, une question de moyens et de continuité de l'action.
Je salue Nicole au standard de France Inter, Nicole qui nous appelle de Nancy, bonsoir.
Alors, je vous appelle de Nantes.
Ah, de Nantes, pardon, mille excuses.
Oui, je voudrais savoir s'il existe des associations auxquelles on peut s'adresser quand on a des chambres libres dans un domicile privé.
Donc, des associations auxquelles s'adresser quand on a des chambres libres dans un domicile, si j'ai bien entendu et compris votre question, Nicole. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça ?
Je sais pas, il y a plein de trucs qui s'appellent Welcome les réfugiés. Donc déjà, si elle a rien contre le voyage, elle peut s'adresser à ces associations. Après, très franchement, c'est soumis à des règles en France et j'en sais rien, quoi. Franchement, je sais pas.
Christophe Louis, vous avez des noms d'associations qui vous viennent à l'esprit ?
Là, il y a eu un dispositif qui a été lancé par le gouvernement sur l'accueil des réfugiés et je trouve ça très très bien. Et surtout, c'est un dispositif qui permet à chacun d'accueillir chez soi s'il a de l'espace digne aussi. Hein. Attention, hein, on n'accueille pas n'importe quoi, c'est pas dans un canapé, c'est dans une pièce. Et puis surtout, c'est accompagné. Et moi, j'invite toutes les personnes d'aller voir des associations qui font de l'hébergement, il y en a partout, et d'aller voir si eux le font, et dans ces cas-là, de garantir un accompagnement. On n'accueille pas chez soi comme on veut, on accueille avec un accompagnement, parce qu'il y a plein de dispositifs, de démarches, etc., qui sont très complexes, et qu'on ne peut pas, quand on ne connaît pas le dispositif, on ne peut pas savoir.
Christophe Robert ?
Oui, non, mais juste, effectivement, il y a Welcome Refugees, il y a l'association Singa, sur la question des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile. Il peut y avoir, effectivement, la DIAL, ce que évoquait Christophe Louis, donc c'est, pour votre auditrice, c'est la DIAL, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Après, il peut y avoir aussi, et souvent, la Fondation Abbé Pierre, des propriétaires qui disent, mais moi, franchement, je suis prêt à louer mon logement en dessous du marché, si c'est sûr que mon logement ne sera pas démoli, que je vais vraiment avoir les loyers. Et là, il y a tout un réseau d'associations qui font de l'insertion par le logement, SNL, Solidarité Nouvelle pour le Logement, la FAPIL, qui est une fédération aussi qui défend cette logique-là. Donc, vous pouvez contacter la Fondation Pierre, on pourra vous orienter vers ces associations. Mais effectivement, c'est intéressant et ça me permet de dire qu'on ne peut pas non plus que attendre de nos responsables politiques. Il faut absolument une politique publique forte, ambitieuse, dotée de moyens, mais il faut aussi que nous, les uns et les autres, on se mobilise pour sortir de ce fléau dans lequel on se trouve aujourd'hui.
Retour au standard de France Inter. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir.
Vous appelez des Yvelines.
Merci de me donner la parole.
Merci à
bonjour
vous.
À Christophe Robert, je téléphone de Bailly. Et voilà, je voulais dire un mot positif par rapport à cette situation gravissime que l'on décrit là, et apporter un témoignage qu'on peut faire, comme vient de le dire Christophe, du positif au-delà de ce que font les pouvoirs publics. Et le positif, moi je suis président de l'association Solidarité Nouvelle pour le Logement en Yvelines depuis peu, mais nous pouvons faire beaucoup si des bénévoles se retroussent les manches, si nous nous engageons sur des projets, et par exemple à SNL, nous avons des objectifs qui sont de créer des logements sociaux, très sociaux, pour permettre à des personnes qui sont en précarité, des personnes démunies, de pouvoir accéder à un logement passerelle, le temps qu'ils se refassent une santé et un cadre de vie, en attendant de retrouver un logement durable. Alors, notre mission principale, après avoir créé le logement, c'est de les accompagner. Le mot d'accompagnement est extrêmement important, parce que ces familles ont besoin de recréer du tissu social, du lien social, et pour cela, des bénévoles peuvent les aider. Et ensuite, ces familles arrivent à accéder à un logement durable. Je dirais que depuis que l'association existe, 90% des locataires ont intégré un logement durable, et ça, c'est formidable, parce que ça les remet dans un circuit tout à fait intéressant.
Ce que vous décrivez là, c'est un cercle vertueux. Merci Bernard. Christophe Robert ?
Oui, c'est évident. J'étais exactement ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que... Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette action, c'est qu'en fait, on n'attend pas seulement la construction de logements sociaux. On a besoin de logements sociaux, de plus de logements sociaux. Il y a eu une augmentation de la production, mais on n'a pas atteint les 150 000 par an que le gouvernement s'était fixé pendant ce quinquennat. Donc, il en manque, et surtout de logements sociaux vraiment à bas loyer. Mais là, on mobilise des logements du parc privé, de façon diffuse, un peu partout. Et ça permet, par exemple, de lutter contre la ségrégation territoriale, de ne pas faire que ça soit toujours les mêmes communes qui accueillent le logement social ou le logement à vocation sociale. Donc ça peut être des petites opérations qui vont être accompagnées, effectivement, par des bénévoles et qui vont permettre de faire que tout le monde participe à l'effort de solidarité, parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit toujours les mêmes communes qui joue ce rôle de responsabilité dans une agglomération donnée.
Toujours dans le public, place de la République, Michaël Thébault.
Avec Elina qui a une question à nos invités.
Bonsoir Elina.
Oui, bonsoir. 15 ans dans la rue, voilà. Ma question c'est... J'ai eu mon premier appartement à 44 ans. J'ose pas vous dire quel âge j'ai. Est-ce que vous trouvez normal que les HLM vous demandent de prouver que vous gagnez 1800 euros net par mois pour avoir un studio? C'est ça la politique de gauche?
Merci pour cette question. Qui souhaite répondre, Monique Mette?
Non, c'est pas normal, mais on l'a déjà dit tout à l'heure, il nous faut du logement à la portée de nos moyens, en sachant que on fabrique des contrats mal payés, sous-payés, etc. Donc non, ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas réservé à une politique de gauche, c'est une politique qui existe en France depuis vachement longtemps. Donc c'est une politique de droite, de gauche et de toutes les couleurs, de tous les partis. Voilà. Hein.
Christophe Robert.
Oui, je pense qu'il faut qu'on dise une chose très importante. Le logement social en France, c'est 4,5 millions de logements. Une grande partie de ces logements sociaux remplissent leur rôle social, notamment des logements qui sont parmi les plus anciens et qui se retrouvent à des niveaux de loyer très bas. Là où il y a une inquiétude, et que pointe effectivement la personne qui a témoigné tout à l'heure ou que vient de rappeler Monique, c'est qu'il y a une partie des logements sociaux qui sont aujourd'hui considérés comme des logements sociaux, mais qui n'en sont pas, qui sont en réalité des logements intermédiaires. Et par exemple, une ville qui doit respecter la loi SRU peut faire ses obligations au titre de la loi uniquement en faisant cette catégorie de logements dits sociaux, mais en fait qui sont du logement intermédiaire. Donc le gros enjeu pour les années à venir, c'est effectivement, comme Monique l'a dit, comme l'auditrice l'a dit tout à l'heure, c'est de faire sortir du logement social vraiment, vraiment bas. Parce qu'autrement, entendre ce qu'on vient d'entendre, ou ce que Christophe Louis disait tout à l'heure, ça constitue un vrai problème. Si le logement social, qui est le levier pour exercer la solidarité dans ce pays en matière de logement, eh bien pour des raisons de ressources insuffisantes, parce qu'il y a des problèmes de gestion, ça a été dit aussi, ne peut pas loger. Mais alors où allons-nous loger les personnes? Donc ça pose une question sur le modèle économique, les moyens financiers qu'on injecte pour arriver à faire du logement très, très social.
Monique Mette.
Pour faire simple sur le logement social, les politiques se cachent derrière des quotas, comme tout le monde. Des quotas, des chiffres et des chiffres. Donc ils nous disent « Oh, mais regardez, à Strasbourg, par exemple, nous, on a 40% de logement social. » Mais le PLAI, c'est-à-dire le logement que les gens pauvres peuvent avoir, auquel ils peuvent accéder, lui, c'est une toute petite part, 5%.
Et je laisse le mot de conclusion à Christophe Louis, directeur de l'association Les Enfants du Canal. C'est voilà, le téléphone sonne, se termine dans 30 secondes.
Alors, au nom des Enfants du Canal, on a passé une très belle journée avec France Inter, toutes les équipes de France Inter, la matinale, tout ce qui s'est passé dans la journée, tous vos reporters qui ont couvert et qui ont été rencontrés les personnes de la rue. Donc, au nom des Enfants du Canal, on voulait remercier France Inter au complet, Radio France aussi qui a soutenu tout ça. Et ensuite, Et ensuite, on remercie aussi tous ceux qui ont soutenu et qui soutiennent l'action des Enfants du Canal. Merci.
Merci à vous, merci à tous et merci pour votre participation. Le journal sur France Inter est à suivre.
Et merci d'avoir invité les SDF à parler.
Merci à vous, Monique, d'être venue à notre micro.